De Radio Silence, bonjour, ou plutôt joyeuse Pâques. Nous sommes le lundi de Pâques, le lundi 5. Que vous dire, si vous êtes chrétien et vous l'êtes forcément, en tout cas pour au moins la moitié de l'audience de Radio Silence, radio catholique, donc aussi chrétienne. Si vous êtes chrétien, vous devez sûrement être dans la joie pour la résurrection du Christ qui symbolise quelque chose comme le renouveau dans la vie, comme le printemps, les fleurs qui vont refleurir, la vie qui repart et un nouveau cycle, je le souhaite pour tout le monde. Alors, ce flash sur le monde. Normalement, j'aurais pu attendre encore une semaine que vous savouriez la bonne nouvelle, mais il se passe beaucoup de choses, tellement de choses en Amérique sur le débat démocratique qu'on ne peut pas louper ça. Et vous allez voir et pourquoi, c'est-à-dire que ça devient intéressant. Enfin, le débat revient et on parle des vrais sujets. Là, sans tabou, parce qu'à un moment donné, lorsque on a assisté à la fraude monumentale qui a eu lieu avec les élections dernières, de présidentielles, les esprits sont échauffés, hein, et donc là, on peut plus faire joueuse hypocrite, et chacun obligé de tomber le masque, et chacun prend son camp et prend parti, et au moins les choses sont claires, et c'est ça qu'on demande depuis, hein, sans se tuer. Sans se tirer dessus. Même si je vais quand même commencer ce flash par des chiffres qui ne sont pas glorieux pour notre ex-président Obama dans la ville de Chicago. Seulement pour cette. Enfin, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire cette. J'allais dire ce mandat, oui, législature démocratique, très anti-gun. Au cours de cette année, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 mars, les chiffres sont là. C'est les chiffres du, je crois, du. Je sais pas comment on va dire ça en français, CDC, du docteur Fauci. Vous connaissez déjà le Centre de contrôle des maladies et de la protection, forcément peut-être sociale ou sanitaire. Ou protection médicale, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de très puissant. Il paraît d'ailleurs qu'il a le plus gros salaire aux États-Unis, probablement plus que le président de la. Enfin, je sais plus si on peut parler de République pour l'Amérique, plus que le président. Donc, d'après leurs chiffres, 703 personnes ont été victimes d'un. On va dire quoi, d'une attaque à main armée, ou plutôt on leur a tiré dessus carrément, mais on va pas dire comme ça, attaque à main armée, c'est mieux. Et puisque sur ces 703 personnes, à Chicago, du 1er janvier au 31 mars, 184 sont décédés. Sur cette, oui, 184 sont décédés. Et comment j'ai les chiffres là qui sont. Faut pas que je m'embrouille, que je vous dise. Non, non, pas 184 sont décédés. 134 sont décédés, donc ce qui représente 184 de plus sur la même période en 2020. Voilà, 703 personnes ont été victimes d'une attaque à main armée, je vais le répéter, dont 134 sont décédées, ce qui représente une augmentation de plus de 184 personnes victimes en comparaison avec l'année dernière, 2020, avec la présidence de Trump. Et toujours sur cette même lancée, enfin oui, sur la même lancée. On a, comment je vais dire, toujours CDC, hein, la CDC ou le centre de contrôle, je sais pas comment dire, ou le centre de contrôle, qui nous dit que, oui, mais il faut relativiser ceci parce que comparativement aux gens qui décèdent pour chute, il y en a 37 455 tous les ans, enfin. Il y en a eu, on va dire, l'an dernier, référence, et que ces gens-là, ils décèdent plus par chute que par les armes, les attaques à main armée. Et d'ailleurs, il précise aussi que il faut pas non plus aussi tout prendre comme ça, tout mettre la faute de la violence de l'Amérique uniquement sur les armes, parce qu'il y a aussi 458 personnes qui sont décédées avec des attaques, on va dire, à l'arme blanche, mais comme le marteau, vous vous rendez compte, c'est plus, c'est encore une arme blanche, et puis tout le reste, des objets tranchants, 458 morts par objet tranchant. 37 455 suite à des chutes, 703 pour les armes. Donc, en fait, pour eux, si on fait une moyenne, on aura probablement 200 et quelques, voilà, d'après leurs chiffres, de morts, de personnes qui décèdent vraiment sous le coup des armes. Donc, il faut raison garder, probablement, vous savez, l'Amérique, elle est côtoie la mort tous les jours. Donc, ça veut donc dire quoi? Que il faut pas non plus que le président se précipite avec, pas le président, le Congrès se précipite très vite, plutôt la House, pour faire encore une énième, un énième texte de loi contre les armes. Et là, ils en ont fait quand même en ce moment. On interdit les armes automatiques, tout ce que vous voulez, qui peut causer la mort par arme. Bon, ça, on parle déjà dans la violence américaine par le côté le plus sordide, mais ce qui est impressionnant, là, et en même temps parlant, c'est qu'on est à Chicago. Ici, on est à Chicago, il y a beaucoup de noirs, et que là, alors qu'on parle de la white suprématie, est-ce qu'on peut encore tellement. Parce que la white suprématie suppose que c'est le blanc qui tue le noir, comme on a vu avec George Floyd, où voilà, c'est un policier blanc qui étouffe carrément George Floyd, en plus de façon très, je ne vais pas dire lâche, mais très bête. On a vu déjà plusieurs fois ce genre de scène où la victime est en train de crier, j'arrive pas à respirer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le blanc est sans pitié. Alors, c'est probablement cet effet de perception de du manque de pitié du blanc vis-à-vis d'un noir qui implore la pitié, qui est très blessant et qui laisse penser qu'il y a non seulement du mépris, mais de la haine. Et ça, c'est peut-être ce qui fait que la white suprématie est décriée, plus décriée dans le crime aux États-Unis. Alors qu'à Chicago, là, avec ces chiffres-là, les Noirs s'entretuent entre eux, hein, et le président Obama a envoyé, a conseillé à son ami Biden au cours du débat d'aller comme ça, de façon arrogante et malhonnête, poser la question au président Trump, que pensez-vous de la white suprématie? Trump n'a pas répondu, parce que c'est quand même fort de café que les gens qui, vous savez, à la suite de la mort de George Floyd, il y a eu, je vais pas dire des émeutes, mais il y a eu un peu de ça. On a détruit les statues, on a déboulonné des statues, il y a eu beaucoup de choses. Et surtout, ils demandaient de comment dire, de défendre, d'arrêter de financer, de subventionner la police, voilà, il fallait plus donner beaucoup d'argent là-bas, d'équipement et tout, de sous-financer, de baisser le budget de la police de façon à ce que, pour les sanctionner un peu pour leur violence, parce que ils n'étaient pas en règle par rapport à la déontologie qui consiste à protéger les gens. Donc, quand ces gens-là font toutes ces manifestations contre la police, il est quand même fort de café de voir que, en même temps, Trump, qui était là, Trump a maintenu, hein, que lui, pour lui, c'était pas négociable. La police sera toujours financée parce que on joue pas avec la sécurité. Et là, les chiffres lui donnent raison, tout simplement à Chicago en plus. 184 de plus sur 3 mois de mort que lorsqu'il était là, alors que les Noirs votent démocrate. Vous savez, c'est toujours bien de tricher, mais à un moment donné, la vérité, les choses commencent à apparaître pour ce qu'elles sont. Et ces choses-là, nous mènent tout droit à ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle et qui fait que certains gouverneurs des États clés, surtout, ont compris qu'il y avait quand même là matière à réflexion dans tout ce que Trump invoquait, puisque les médias disaient que c'était des baseless claims, c'est-à-dire des revendications sans fondement. C'est toujours ce qu'ils avaient à dire. Oui, mais les revendications de Trump ne tiennent pas la route, elles sont pas fondées, etc. Mais il y a donc le gouverneur de Monsieur Brian Kemp de la Géorgie qui a quand même pris vu, moi je vais dire, je vais pas dire qu'il a pris le taureau par les cornes, mais vous savez, il y a des dirigeants qui ont encore une conscience. Alors sa conscience l'a jugé et ils ont changé le texte, surtout que en face, la House et Joe Biden sont en train de réfléchir sur un texte, ils l'ont déjà codifié, qui va élargir le vote par correspondance et qui va interdire formellement aux gouverneurs, aux autorités des États, de demander des justificatifs en matière d'identité. Vous vous rendez compte? Donc, ça sera interdit. Et là, le gouverneur Brian Kemp de la Géorgie a réagi. Ils ont plutôt fait un texte exactement contraire en se référant sur toutes les critiques qui avaient été formulées lors de cette élection, après, enfin pendant, après, avant tout ça. Premièrement, ils ont le vote avec par mail sera très contrôlé et très restreint, enfin restreint, mais voilà, on va plus ramener les ballots comme ça de vote par email, ça va être très très contrôlé. Deuxièmement, tout électeur va justifier d'une pièce d'identité et voilà, de son identité, tout simplement. Peut-être pas une carte d'identité, mais il faudra avoir une identité qui prouve que vous êtes citoyen américain et que c'est vous qui votez. Tous ces ensembles, et puis ils ont aussi interdit, ils ont élargi l'ouverture, les horaires d'ouverture des bureaux de vote, y compris la durée par la période durant laquelle on peut voter par anticipation. Ils ont aussi interdit qu'on puisse venir donner de l'eau ou en manger aux gens qui sont en train de. Enfin, vous savez, les gens qui font l'orang, parce que sous prétexte de donner de l'eau ou à manger, on en profite pour vous glisser à l'oreille pour qui vous deviez voter. Voyez un peu, ils ont vraiment encadré ces choses-là et ça suppose que dans la foulée, il ne va pas changer comme il y a eu dans le Michigan, on change la loi avant les élections et on revient sur la loi après les élections. Donc ça se fait automatiquement. Colère de la Maison Blanche, Monsieur Biden dit que ce texte le rend malade, ça donne envie de vomir, c'est dégoûtant ce genre de texte, parce que eux ils sont en train de vouloir tricher avec les alliances, vous voyez, la politique de l'immigration en ce moment, ils sont 171 000 qui ont passé la frontière du Texas de façon illégale. Ils sont stockés quelque part en attendant. C'est peut-être cela qu'on voulait faire voter sans justificatif de pièce d'identité. Jusque-là, on s'est dit, oui, ça va, c'est le jeu, pas le jeu politique, c'est la petite querelle. Moi, je fais mon texte pour m'arranger un peu, ce qui est même déjà une énormité, parce que le vote par postal, c'est parce qu'il y avait le Covid. Il n'y a plus de Covid. Ou plutôt, il y en a moins. De toute façon, celui qui existe en ce moment n'empêche personne d'aller voter. Donc, le vote par Covid, par Covid, postal pour Covid, pour panique en plus de Covid, ne se justifie plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un texte. On fait un texte où on va passer à la vitesse supérieure en force sur ce seul vote qui a permis. Et c'est ça qui prouve que M. Biden est déjà en train d'avouer qu'ils ont triché sans ce vote postal et sans le fait qu'on ne puisse pas contrôler L'identification, mais il passait jamais, il aurait été battu, mais de façon honteuse. Alors, il a fallu faire cela maintenant. Par ces textes-là, eux-mêmes, ils avouent le forfait de ce qu'ils ont commis et par le fait qu'ils osent interdire qu'on puisse. Non, mais vous vous rendez compte, c'est le fondement même de la démocratie qui est nié. Vous ne pouviez pas, depuis Athènes, voter. Sans être citoyen, vous devez être citoyen répertorié comme tel pour voter si tant est et que, en plus, la démocratie, c'est un régime pour le peuple, gouvernement pour le peuple, par le peuple. Vous ne pouvez pas venir façon anonyme. En plus, je regardais encore là, j'ai feuilleté la rhétorique de Aristote et je suis tombé sur une préface très intéressante. Et dans cette préface, le préfacier fait bien de rappeler d'où vient le mot rhétorique avec les rhétores dans la tradition d'Athènes. Et il rappelle qu'à Athènes, chaque citoyen avait le devoir de participer à la vie publique et vous devriez assister au moins, je crois, à 40 séances par an. Et on tirait au sort. La démocratie n'est pas au départ un système électif, oui, si on peut dire électif, c'est un système qui est basé sur le tirage au sort, parce qu'on considère en considérant que tous les citoyens se valent, donc il n'y a pas de raison d'en nommer un plus que l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On tirait au sort chaque jour qui allait, qui n'allait pas, qui pour assister aux tribunaux, qui pour assister au conseil, qui pour assister à l'ecclésia, à l'assemblée générale. Donc, c'était des choses, après c'est très codé, mais quand même c'est l'idée que c'était du tirage au sort, l'idée que ce tirage au sort était la seule façon de garantir la non-contestation et la liberté et la justice surtout, et l'équité peut-être, et l'idée que vous ne pouviez pas vous plaindre parce que tout le monde y passait. Tout le monde y passait. Donc, c'était basé déjà sur l'identification. Il y avait 30 000 ici au 4e siècle. À Athènes, il y avait, je sais pas si c'est avant Jésus-Christ, forcément, il y avait 30 000 citoyens à Athènes et tout le monde participait. Alors la participation, parce que soit vous êtes tiré au sort ce jour-là pour conduire les débats ou pour conduire l'assemblée, soit vous êtes libre de venir participer. Et si vous venez participer, vous voterez automatiquement et vous aurez la parole si vous voulez la parole. Donc toutes ces choses-là ont changé parce que nous ne sommes plus vraiment dans une démocratie, vous voyez, parce que si on réfléchit comme attendez, je regarde le nom du préfacier là, il s'appelle Pierre Chiron. Si vous réfléchissez comme à Athènes, ben, nos élus, c'est peut-être une oligarchie, mais en même temps, c'est pas forcément cela. Ça a été jusqu'aux élections dernières. En ce moment, on n'est plus près de la tyrannie. Parce que la tyrannie, c'est vraiment le régime du chef incontesté. Et surtout, toujours dans ces livres-là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que le tyran, il a, comme le monarque, il a une garde royale, mais sa garde royale est tournée contre le peuple et souvent composée d'étrangers. Comprenez? Donc c'est très important, c'est une garde, c'est un peu comme j'ai vu la différence entre Rome et Carthage, où à Carthage, ils confiaient l'armée aux étrangers et Rome confiait son armée à ses propres aux Romains. Et par la suite, comme ça coûtait beaucoup, Rome a créé ce qu'on appelle la Légion. Et les légions faisaient le travail de ce que tous les soldats réunis faisaient. C'est probablement là que vient la notion de mercenaire. Mais bon, c'est intéressant l'histoire. En ce moment, des fois, on s'est dit, bah, on ne peut pas tout faire, mais vraiment, l'histoire, c'est très intéressant. Pour comprendre surtout en ce moment dans à quelle sauce nous sommes, comment je vais dire, cuisinés. Nous avons donc ces débats qui montrent que les démocrates veulent conserver le pouvoir à tout prix, et surtout par la fraude, et surtout en détournant l'esprit des lois. Voilà, Montesquieu, en détournant l'esprit des lois à leur faveur, ce qui est absolument inouï. Les lois, elles sont codifiées. La Constitution ne peut pas avoir dit qu'on peut voter sans présenter son identité. Et d'ailleurs, ça se complique parce que derrière, vous voyez, l'élection, tout ce qui était caché arrive, tous les masques tombent. Derrière tout cela, on a la réaction des groupes privés. Donc les groupes privés arrivent et en Géorgie, nous sommes en Géorgie, il se joue un drame là-bas incroyable. Les groupes privés arrivent. Et parmi eux, on a d'abord la Major League du baseball, là, qui les sportifs, hein, qui enfin la ligue qui coiffe donc tous ces sportifs-là, qui dit que bah si c'est comme ça, ben eux ils vont quitter, puisqu'il en est ainsi, eux ils vont délocaliser les activités de la Géorgie, ils vont aller ailleurs. Bon, eux ils partent de la Géorgie en fait. Alors c'est très grave ce genre de chantage. Parce que la Major League du baseball, c'est quand même. Vous voyez, on parlait d'Athènes tout à l'heure, c'est ça. Moi, quand j'ai été là-bas, c'était une chance inouïe. Je suis entré à l'Amérique par Atlanta. Donc, tout, en plein centre, à côté du Georgia Center, pas loin des CNN, il y avait un chantier monumental. C'est dans ça qu'il se construisait, ce genre d'arène. Énorme, gigantesque, c'était impressionnant, rien que de voir tout ça comme ça étalé devant vous. Et quand c'était un chantier, mais il y avait du monde à travailler dessus. Et quand vous vous rendez compte que ils peuvent, après un investissement colossal comme celui-là, dire qu'ils vont partir parce que maintenant, voilà, les sportifs se mêlent de politique. Ah, c'est curieux, hein? La politique, c'est le truc où, quand vous avez fini votre carrière, je sais pas, à jouer au foot, à jouer au baseball, à faire du cinéma, je sais pas, et plus quoi, à faire la musique, vous vous rendez compte que, ah oui, mais tiens, j'ai une âme de politicien. Mais ça, c'est des faux politiciens. La politique, c'est pas un truc où on arrive après avoir fait d'abord autre chose, ou alors sur le tard parce qu'on prépare sa retraite, ou parce qu'on a en panne d'inspiration, on veut se faire remarquer, ou alors parce qu'on est rentré dans le gang de la corruption, la plateforme démocratique des démocrates qui finance les démocrates, et parce qu'on a atteint certaines visibilités, on estime tout de suite que popularité égale politicien égale efficacité politique. Vous avez ici, bon, je ne peux pas m'empêcher de le dire, hein, l'école de commerce de Lyon a attribué un doctorat honoris causa à Eto'o, notre footballeur national camerounais. Il aurait pu en, je crois, peut-être que Mila aussi, Roger Mila, parce qu'il a marqué des buts, peut-être qu'on lui en a aussi attribué un de doctorat, j'en sais rien. Mais ça, c'est une confusion de genre qui fait que on est arrivé à avoir des top modèles qui venaient défiler au Festival de Cannes, dénaturant complètement la fashion invité pour polluer le festival de Cannes. On ne savait plus qui était l'acteur et qui était la musicienne, la stripteaseuse. Il y a même une qui était venue toute nue avec juste une chemise de nuit transparente. Je ne vais pas la nommer, vous savez qui c'est. Donc, toute cette confusion de genre n'est pas bonne pour, pas seulement pour je ne veux pas dire la démocratie, mais pour le projet de société que nous voulons construire, parce que à mélanger les symboles comme ça, tout devient égal à tout, voilà. Et surtout, on se retrouve avec des gens qui sont là, qui se positionnent comme étant sportifs, et alors qu'ils sont en train de faire la politique en sous-main. Et quelle politique? La politique de la corruption, la politique du chantage. Donc, monsieur le gouverneur, si vous ne retirez pas votre texte, nous on part de la ville. Ah oui, bien sûr, c'est une pénalité énorme. Le travail, ça va mettre du chômage, ça va créer cette arène comme ça, monstrueuse, construite, qui va redevenir déserte. Ça va même un vide, vous vous rendez? C'est satanique, ce type de réaction. Ensuite, il y a Coca-Cola, bien sûr, c'est son fief, Atlanta, qui disent aussi qu'ils ont emboîté le pas à la Major League du baseball en disant, oui, nous aussi, on n'est pas d'accord avec le gouverneur de la Géorgie pour le texte qu'il a pris. Et c'est toujours sur quel point? C'est sur le point de l'identification, parce que c'est les agents de Joe Biden, non, ses amis, ses financiers. Et on a derrière Delta Airlines, la compagnie. Ah, ça peut pas manquer. Vous savez, moi, j'ai des déboires avec British Airlines et qui m'ont laissé deux fois abandonner. Et là, j'ai compris depuis que les compagnies aériennes faisaient de la politique, ou plutôt, elles étaient vraiment très impliquées là-dedans, comme les médias. Pas étonnant, Delta arrive, paf, et pas d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire aussi. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que ce chantage-là, l'époque du chantage et l'ère du chantage, c'est fini, c'est terminé. Trump a eu vraiment, comment dire, c'est une bénédiction le passage de Trump à cette présidence américaine, parce que les 74 millions d'électeurs ne vont pas se laisser compter, fleurette, puisque là, les républicains aussi, vous savez, là maintenant, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils bougent. Ils ont dit d'accord. D'abord, Trump a dit, bah alors boycottez-moi tout ça. C'est simple, c'est des commerçants. Ils vendent des choses, vous n'achetez plus, c'est tout. Boycottez-moi tout ça, parce que vraiment, Trump a précisé, toute personne et toute institution qui viendrait s'interposer, je veux dire, entre le peuple et des élections justes, transparentes et équitables, doit être dégagée. Voilà, il n'a pas dit dégager, mais c'est un peu ça. Doit être boycotté, pas saboté. Parce que chacun lutte avec les moyens qu'il a. Puisque eux, ils ont des gros sous. Alors, un républicain leur a rappelé que ça va être très simple. D'abord, il a dit à ses collègues que sachez que lorsque l'un de ces gens-là, Coca-Cola, la Chambre de commerce, Delta et tout, vous font un chèque de 1 000 dollars pour votre campagne, sachez que les mêmes sont en train de faire un chèque de 5 millions de dollars à Black Lives Matter, ce qu'on disait tout à l'heure pour ceux qui ont réagi contre la mort de George Floyd. Vous voyez, ce sont tous les Noirs. On leur donne plein d'argent, mais ils se mettent plein sur la gueule entre eux. Ils accusent la white suprématie. C'est un jeu pervers. Tout le monde est devenu spécialiste de cela. Et il leur précise que, en plus de ça, bon, et là, c'est le. On appelle ça. Ils appellent là-bas les stratégistes, ceux qui sont chargés de réfléchir à la stratégie de campagne. Donc, c'est un stratégiste de la Maison-Blanche de Trump, qui lui a dit, bon, OK, il faut savoir que ces corporations-là demandent beaucoup d'avantages et nous, on le leur accorde, enfin, nous, les politiques. Donc maintenant, c'est fini. Il va falloir que les républicains se focalisent sur l'essentiel, c'est-à-dire travailler pour les individus, ce que Trump faisait déjà, travailler pour les familles, donc travailler pour le bien commun. Et tout cela nécessite qu'ils aillent contre tout ce qui est big corporation, big government. Big Labor, ça c'est un syndicat et tout, et tout. Et toutes les multinationales, voilà, les institutions, les multinationales qui veulent régler et gérer nos vies. On ne leur doit rien. Donc, terminer maintenant les avantages fiscaux, parce qu'au Texas, le même problème s'est posé. American Airlines aussi, voilà, emboîte le pas à Delta pour dire que oui, ils sont contre. Ils sont contre cette loi-là. C'est leur façon à eux de manifester la solidarité avec Delta contre le gouverneur. C'est de dire aussi qu'ils sont contre, ils vont faire, je sais pas quoi. Alors, dans le Texas, on leur a dit, ben, bon vent, faites ce que vous voulez, mais sachez qu'à partir de maintenant, et ça s'appliquera pas seulement à eux, les impôts vont passer. La loi antitrust, vous bénéficiez de cette loi, c'est terminé. Et ça va être la même chose, puisqu'on est dans le Texas, on est dans l'Amérique. Le même problème se pose pour les sociétés technologiques, là. Là-bas aussi, comment dire, les citoyens, on va quand même utiliser le mot, les citoyens sont en train d'exiger qu'il y ait un peu plus de régulation du côté de ces entreprises technologiques, société de la technologie, qu'il y ait des impôts qui passent et que ils doivent être, il y a certaines applications qui doivent être interdites parce que elles, comment je vais dire, elles violent la vie privée des gens. C'est ça. Et non seulement quand on la viole comme ça, ben on vous attaque avec, on fait le chantage avec. Il faut les interdire. Donc nous sommes maintenant entrés dans la question vraiment, dans les questions posées à Athènes, qu'Athènes avait vues auparavant. Donc nous sommes dans la thématique où il faudrait quand même que les gens respirent un peu plus parce qu'on ne respire pas. Et il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de justice, parce que c'était cela quand même la démocratie. Et il faudra quand même qu'on revienne au vrai débat. Donc les gens ont beaucoup rigolé en disant, mais attendez, Delta, American Airlines et toutes les autres compagnies aériennes, est-ce qu'on peut monter dans un avion sans pièce d'identité? On peut embarquer? On peut même acheter un ticket? Un billet d'avion, et quand je dis ticket, je pense à la Major League Baseball. Eux, il faut la pièce d'identité pour qu'on vous vende un ticket. Mais ils sont contre. c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc, finalement, on peut en rigoler, mais quand vous pensez que l'Amérique en est là, et de l'autre côté, Madame Pelosi, la maîtresse de la House, elle dit qu'il faut une enquête pour les événements du 6, là, vous savez, les petits jeunes qui sont allés voir là-bas, ils sont fâchés, ils sont montés un peu dans le building du Capitole, et voilà, ils ont commencé à trembler, tout simplement parce qu'ils disaient qu'il faut pendre Mike Pence. C'est une façon de dire, déjà, ils ne pouvaient pas l'atteindre, il y avait la sécurité. Elle demande une enquête qui soit à la hauteur, enfin semblable à la hauteur de ce qu'il y a eu pour le 9-11. Rien que ça. Ça veut dire que c'était des terroristes, c'est des gars, ils ont pris l'avion, ils ont foncé sur les tours du World Trade Center. Je veux dire, ça devient du n'importe quoi. Ils ont tué 3 000 personnes. Vous voyez, ils ont. Bon. Du délire, voilà, du délire, c'est ce qu'on fait maintenant à Washington. Pour terminer, moi, quand j'ai voulu faire cette émission, j'avais à cœur de parler, en parlant de cette immigration, moi, je voulais parler de la nation et des identités. Et finalement, je me rends compte que, bah, non, moi, j'allais compliquer le problème. Si ces gens-là ne sont pas aussi intelligents. Comme de Mélenchon pourrait le dire, parce que peut-être qu'ils ne lisent pas. Non, c'est vraiment des calculs électoraux bêtes et méchants qu'ils font. Alors, évidemment, c'est vrai aussi, on peut, sur un plan, si on rapporte tout cela à l'idéologie, on va quand même voir que, dans tous les cas, il y a quelque chose qui gêne beaucoup les démocrates, c'est l'idée c'est l'identité nationale. Voilà. L'identité nationale, ça les gêne beaucoup. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont partisans et concepteurs du nouvel ordre mondial qui veut que le monde ne sera plus qu'un. Il n'y aura pas de frontières. Et il y aura un petit gouvernant, de petits tyrans, comité des tyrans là-haut, qui vont vous faire voir ce qu'ils vous feront voir. Peut-être c'est leur conception du monde. À ce moment-là, la pièce d'identité ne veut plus rien dire. Et si la pièce d'identité ne veut plus rien dire, vous voyez un peu la malhonnêteté qu'il y a derrière, parce que eux, avec les sociétés de la technologie, ils vous pucent, ils vous filent avec leurs applications et leurs algorithmes. Comprenez? Donc eux, ils auront très très bien votre identification, mais vous n'aurez pas le droit d'avoir des nations, vous n'aurez pas le droit d'avoir un État. C'est-à-dire des choses indépendantes, des choses qui ont été codifiées depuis, vous n'aurez pas droit d'avoir les frontières. Moyennant quoi, eux, ils sont là, ils décideront, ça sera pour l'éternité, ce genre de gouvernement, qu'ils auront pu vous coopter. Et on a vu quelles sont leurs méthodes. Il y a eu des hackers qui ont donc mis la main sur Facebook, encore une révélation, sur les, comment on va dire, tous ceux qui utilisent Facebook, ils ont pu entrer dans le système, ils ont récupéré toutes les adresses. Alors, ça veut dire qu'ils récupèrent tout sur la vie des gens. Ils ont tout sucé comme ça et aspiré plutôt. Et ils ont fait une découverte. C'est que Facebook, Mark Zuckerberg, apparaît dans les comptes de certaines des associations, certains collectifs, certains États, de façon très personnelle dans des conversations, mais parce qu'il, au cours de cette campagne, il a envoyé des chèques à tous ces gens-là, en sous-marin, en sous-main, pour que ces gens-là fassent quoi? Ce sont les petites mains qui ont travaillé, peut-être à faire les faux, voyez, bulletins de vote envoyés par voie postale, peut-être à faire des faux décomptes, peut-être à être des faux scrutateurs, etc., etc. Donc ça n'a pas été déclaré. On arrive à le ressortir parce qu'on trouve quand même qu'il y a un lien particulier, là, privé carrément, entre un grand boss comme Monsieur Zuckerberg et des petits trucs comme ça, collectifs qui ont même son numéro de téléphone personnel. Alors, c'est. Vous voyez jusqu'où ça va, jusqu'où ça va, jusqu'où cette élection est allée. Qu'est-ce qu'on ne va pas découvrir après? Est-ce que la Cour suprême des États-Unis va pouvoir, compte tenu de tout ce qui arrive comme cela, dire qu'on invalide l'élection? Cette élection doit être invalidée pour vice de procédure grave. On les voit à l'œuvre. Ça, c'est. Enfin, c'est plus que évident maintenant. Donc, on ne sait pas, hein, si, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, parce que au rythme où les révélations vont et que les autres essaient d'anticiper pour minimiser ou pour contrer, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Si Joe Biden va rester là 4 ans, mais là il prévoit déjà ce que ils veulent faire pour 2022, pour rester là, pour ne pas perdre la majorité au Congrès, ils la perdront. La perdront parce que là, les choses se sont mises à s'accélérer et c'est ça qui montre que Jésus est ressuscité. J'exagère un peu, mais c'est pour dire que quand on dit Jésus ressuscité, c'est que la vérité, hein, finit parfois par se lever comme ça, se dresser toute seule, parce que le moment est arrivé qu'elle se dresse, et puis voilà, il se trouve que nous sommes en train de vivre un peu ce moment-là, et l'un des chiffres encore avec lequel je vais vous laisser, qui confirme cela, c'est que New York et le Michigan sont des États où les gouverneurs ont vraiment les ayatollahs là du confinement. Maintenant, sont passés à l'ayatollah du masque, le masque obligatoire. On se rend compte qu'ils ont plus de contaminés de coronavirus que le Texas et la Floride où le masque n'est pas obligatoire. Allez comprendre. Amis de Radio Silence, je vous laisse au débat démocratique comme de bons Athéniens. Et je vous dis à bientôt. Vous avez écouté Flash sur le monde de Élise Mbok pour Radio Silence. Portez-vous bien.